pays disparu. Les États que l'histoire a rayés de la carte. Tiré du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement. Iquique, 1879-1883. Population, 16 000 habitants. Superficie, 30 km². Guerre du salpêtre sur fond de poussière. Le salpêtre se forme lorsque des déchets organiques entrent en réaction avec le sol alcalin, notamment dans d'anciens fonds marins d'où l'eau s'est retirée. Ce composé chimique est convoité depuis le début du Moyen Âge, à l'époque où les Chinois découvrent la poudre noire, mélange finement moulu composé à 75% de salpêtre, 10% de soufre et 15% de charbon de bois. Le tout est pétri avec de l'alcool pour former une pâte qu'on étale puis qu'on broie en paillettes qui, une fois séchées, sont réduites en poudre. À l'origine, la poudre noire entre dans la fabrication de feux d'artifice. Au fur et à mesure des améliorations progressives, elle finit par devenir l'ingrédient principal de toutes les guerres de l'histoire, en tant que combustible des canons et des fusils. À partir du 19e siècle, les domaines d'utilisation du salpêtre, ou nitrite de potassium, se multiplient. La substance, fortement azotée, remplace avantageusement le compost et l'engrais dans une agriculture alors en pleine expansion en Europe et aux États-Unis. Et à l'heure où le progrès technologique fait prendre une nouvelle direction à l'industrie des explosifs, l'agriculture devient bientôt le principal débouché du nitrite de potassium. Les plus importants gisements de salpêtre du globe sont incontestablement ceux du désert d'Atacama, en Amérique du Sud. Ils s'y déposent en couches de plusieurs mètres d'épaisseur, sur un plateau perché à 1 km d'altitude, élongeant sur 600 km l'océan Pacifique. Ce plateau est possession péruvienne au nord, bolivienne en son centre et chilienne au sud, dans une bien moindre mesure. Pourtant, ce sont bien des compagnies chiliennes qui gèrent l'extraction salpêtrière et en retirent tous les bénéfices, provoquant l'agacement des deux pays voisins. Ces derniers annoncent donc une augmentation des taxes et une nationalisation de l'affaire. Le Chili prend la mouche et déclare au printemps 1879 ce que l'on appellera plus tard la guerre du salpêtre. Avec leurs fusils à platine, à silex démodé et leurs mousquets, le Pérou et la Bolivie font pâle figure à côté de la moderne armée chilienne. Pour ne rien arranger, les soldats chiliens sont systématiquement drogués à la Chupilca del Diablo, un mélange de poudre noire et d'alcool fort qui transforme les fantassins en berserkers furibonds, sans crainte ni remords. Au fur et à mesure de leur progression, on suppose que les soldats chiliens ponctuent leurs victoires de viol et de pillage, comme c'est si souvent le cas en temps de guerre. Ils recourent aussi à l'utilisation de timbres. Dans tous les villages qu'ils assiègent, ils lancent aussitôt la production de tampons postaux à apposer sur les liasses de timbres qu'ils transportent avec eux. Le motif, toujours le même, représente Christophe Colomb, coiffé de son habituel bonnet de marin à visière et cache-oreille, l'air triomphalement visionnaire à la limite de l'arrogance. Cette actualisation continue permet ainsi aux civils restés à l'arrière de suivre de près l'avancée des troupes. Chaque nouveau cachet sur leur timbre provoque la liesse. Iquique est une ville péruvienne conquise dès novembre 1879. Elle est située sur une étroite bande de terre entre l'océan et les versants abrupts qui montent vers le désert d'Atacama. La région est l'une des plus arides au monde et plusieurs années peuvent passer sans qu'il ne tombe une seule goutte. Ici, rien ne pousse, il y a l'exception des rues principales qui sont régulièrement lavées à l'eau salée. Bâtiments, sentiers et jetés sont tous couverts d'une épaisse couche de poussière grisâtre. toute l'économie tourne autour du salpêtre, qui attire dans la ville une foule de travailleurs étrangers, qu'ils soient croates, chinois, écossais ou pakistanais. Ikeke accueille également de nombreux directeurs des grandes salpêtrières. L'un d'eux est l'anglais John Thomas North. Il n'emmène pourtant pas large quand il débarque à Valparaiso en 1866, avec seulement 10 pounds en poche, dans son vieux costume moisi. Au prix d'efforts acharnés, il commence à diriger la seule entreprise d'approvisionnement en eau de la ville. Mais de nouvelles opportunités s'offrent bientôt à lui. La guerre a eu pour conséquence de faire chuter la valeur des mines de salpêtre. Dans le chaos ambiant, North réussit à mettre la main sur la plupart des sociétés chargées de l'extraction, du conditionnement et du transport du précieux composé. Il est couronné de succès, car à la suite de la conquête chilienne du désert d'Atacama, les prix remontent à leur niveau initial et même au-delà. En 1882, Ikeke est sous occupation chilienne depuis 3 ans. C'est aussi l'année où John Thomas North retourne en Angleterre, devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Surnommé le roi du nitrate, il s'empresse de dilapider son argent. Il investit d'importantes sommes dans de magnifiques propriétés, des chevaux de course et des lévriers anglais. Il organise des fêtes extravagantes, où il se déguise en Henri VIII et s'entoure de toujours plus de notables de l'aristocratie anglaise, comme Lord Randolph Churchill ou le prince de Galles, futur roi Édouard VII. Il est promu au grade de colonel et les journaux parlent bientôt autant de lui que de la famille royale. Les rumeurs vont bon train. Dans un article intitulé « North Daniels », le Hampshire Telegraph les passe en revue pour les démentir une par une. Le colonel North n'a pas offert au gouvernement de payer 3 millions de pounds pour acquérir une partie des fonds de la National Gallery. Il n'a pas non plus l'intention d'en tapisser les murs de sa salle à manger. Le roi du nitrate ne prévoit pas de porter une queue de pie ornée du Koh-i-Noor et des autres joyaux de la couronne lors de sa prochaine réception. Le colonel n'a pas acheté le bateau Great Eastern dans le but de le transformer en palais flottant et d'y convier son ami le prince de Galles à une croisière de luxe. Le roi du nitrate se sert effectivement d'un cure-dent en or après le dîner, mais il n'a pas l'habitude de se raser avec une lame de diamant. Par ailleurs, il n'encourage pas Miss North à se faire des bigoudis avec les billets flambant neufs de la Banque d'Angleterre. La guerre du salpêtre fait long feu. L'accord de paix conclu à la fin de l'automne 1883 impose au Pérou d'abandonner de vastes territoires au Chili, parmi lesquels Ikeke. L'année suivante, il devient clair que la Bolivie a perdu pour toujours son accès à la mer. Par un simple effet géographique, le Chili obtient donc le contrôle des gisements de salpêtre. Mais la majorité des profits engrangés continuent d'être récupérés par des investissements étrangers, dont John Thomas North, ce qui encourage le président chilien José Manuel Balmaceda à proposer la nationalisation des salpêtrières en 1888. Il se heurte à un bloc de résistance de la part des conservateurs, largement subventionné par le généreux colonel North. La guerre civile éclate alors que les forces marines britanniques apportent leur soutien au camp conservateur en bloquant les ports. La presse anglaise, qui rapporte les événements, décrit Balmaceda comme un dictateur de la pire espèce et un boucher. Après avoir été vaincu, Balmaceda met fin à ses jours. John Thomas North meurt intoxiqué par une huître quelques années plus tard, sans que cela ne réduise l'influence britannique sur l'économie chilienne. Les 3/4 des exportations continuent de transiter par l'Angleterre, et il s'agit presque exclusivement de salpêtre. Les conditions de travail dans les salpêtrières du désert d'Atacama sont épouvantables, avec des journées de 16 heures et un salaire à la limite du minimum vital. En décembre 1907, les mineurs se révoltent et marchent vers Ikeke, entonnant chants et slogans. La manifestation vire au massacre. Le massacre de Santa Maria de Ikeke, au cours duquel 2000 hommes et femmes et enfants sont mitraillés par l'armée chilienne. 4 tunantes de esos que tienen dinero. À cette époque, des chercheurs européens ont déjà trouvé une méthode pour extraire l'azote de l'air. La production démarre pleinement dans les années 1920. Pourtant, la demande de salpêtre chilien se maintient un moment, jusqu'à ce que le marché la voie s'effondrer subitement au milieu du XXe siècle. L'écrivain danois, Kjartan Jensen, visite la région des mines d'Ikeke à la fin des années 1990. Il y trouve une industrie en ruine, dans un état plus fossilisé qu'un cimetière de dinosaures. La Pompéi de l'industrialisme, enterrée et oubliée sous une pluie de cendres, suite à la dégringolade vertigineuse des cotations boursières.
Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
C'était Pays disparu. Extrait du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement.